s'assombrir. Quand j'ai pris conscience au début des années 2000 de l'inéluctabilité du changement climatique et que c'était un avenir absolument incontournable. Jusqu'alors, les histoires de science-fiction, d'anticipation, ont abondé assez souvent d'avenir sombre et d'histoires post-apocalyptiques, mais qui étaient toujours, je dirais, conditionnelles. Bon, il y a eu plein d'histoires sur après le monde atomique, après la Troisième Guerre mondiale, d'un astéroïde qui s'écrase sur la Terre, d'invasion d'un virus mortel, etc. Ou d'invasion d'extraterrestres méchants et belliqueux. L'être humain ne manque pas d'imagination pour détruire ses semblables, et l'actualité le prouve tous les jours d'ailleurs. Mais tout ça, c'est conditionnel. Ça pourrait arriver, éventuellement. Le changement climatique, ça a été pour moi une nouvelle donne dans l'avenir de l'humanité et de la science-fiction. C'était que ça pourrait arriver, c'est que ça va arriver. De toute façon, quoi qu'on fasse et quoi qu'il se passe, ce changement est en cours, il aura lieu. Et il y aura des conséquences plus ou moins catastrophiques selon notre degré de réactivité. Mais de toute façon, c'est incontournable. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit que je ne peux plus écrire d'histoire de science-fiction ou en faisant un pas sur ce problème-là. Donc j'ai décidé de l'aborder à bras-le-corps et d'écrire d'abord à court terme, qui décrivait donc les conséquences à court terme du changement climatique
et du manque d'eau.
Et du manque d'eau. Par le biais du manque d'eau, effectivement, ce qui me paraissait être une approche un peu plus complexe que juste d'écrire des méga-tempêtes. Parce que, à l'époque, j'y vivais encore en Bretagne, d'ailleurs, enfin, j'y suis revenu depuis. Et le manque d'eau en Bretagne, ce n'est pas quelque chose qui apparaît évident tout de suite, quoi. C'est assez abondant l'eau en Bretagne, qu'elle tombe du ciel ou qu'elle coule par terre.
C'est assez abondant. C'est une question de surplus.
Voilà, il y a plus une question de surplus que non. Et donc, je me suis rendu compte que c'était une problématique qui était assez complexe à rendre évidente, quoi. Que malgré toute l'eau qui tombe du ciel, on risquait dans un futur proche de manquer d'eau potable, simplement. Et puis, voilà, puis à côté, générer un approfondissement de la réflexion, un horizon plus lointain avec Exode et puis maintenant avec Semence.
On va revenir dans le détail à la façon dont vous voyez les choses s'empirer et aller vers le précipice un petit peu. Est-ce que Jean-Pierre Andrevon, pour vous, c'est une thématique qui est ancienne et dont nous aurions dû prendre conscience plus tôt?
Bien sûr, oui. L'écrivain rejoint le citoyen ordinaire, et je crois que la science-fiction n'a jamais été aussi près de la réalité, quoi, parce qu'on a rêvé de la conquête de l'espace, on s'est maintenant que c'est impossible, on a vu des distances sur lesquelles on passait un petit peu légèrement en ce qui concerne la science-fiction des années 50-60. Et moi, il se trouve que comme je ne suis pas tout à fait de la même génération que Jean-Marc, j'ai pris conscience des périls écologiques très tôt, dès la fin des années 60, post-68, année qui m'est chère, comme vous le savez. Et puis j'ai participé donc à la création et à la rédaction du premier journal d'écologie politique qui s'appelle La Gueule Ouverte et qui avait été lancé par les éditions du Square, qui éditait Charlie Hebdo, Harakiri. Et puis j'ai lu les bouquins de Dumont, etc., du Boss et tous ces gens-là. Donc ça a été ma préoccupation première, et comme il se trouverait que je commençais à écrire la science-fiction dans ces années-là, automatiquement, ces préoccupations se sont déposées, si je peux dire, sur les textes, au prix de les en nourrir, les ont constituées, pas comme un peu de moutarde sur la pizza. Et puis, les années passant et les décennies passant, les périls se sont démultipliés. L'effet de serre n'étant qu'un des résultats de nombreux présupposés, pollution, acidification des océans, etc., quoi. Donc, ma science-fiction est nourrie de ça. Mais ce que j'essaie de faire quand même, c'est pour ne pas écrire toujours la même chose. Je ne parle pas toujours systématiquement de la fin probable, sinon du monde, parce que le monde finira jamais, mais de l'humanité. simplement on dit, mais en revanche, vous êtes pessimiste. Et j'ai la réponse toute faite, je dis, je ne suis pas pessimiste, je suis lucide. Et pour être lucide, il n'y a qu'à consulter les chiffres, il n'y a qu'à taper sur Wikipédia, n'importe quoi. On a tous les chiffres, on sait ce qui va nous arriver si on ne réagit pas. Et moi, ma grande interrogation, mais qu'est-ce que font les gens? Ils devraient savoir qu'est-ce qu'ils font. Pourquoi il y a des climato-sceptiques? On devrait faire quoi? Les fusiller, moi je crois. Voilà, je m'arrêterai là pour le moment. Les chasseurs, oui.
Donc Jean-Pierre Andrevon est bien là pour nous alerter et pas du tout pour jouer à nous faire peur. Jean-Michel Truong, est-ce que pour vous, il y a aussi cette.
c'est à la fois réconfortant et très inquiétant de se rendre compte que ce qu'on a écrit comme un livrage de fiction à la base est en train de glisser dans la réalité. Et c'est le cas d'Aqua sur divers sujets. Parce que, bon, Aqua, c'est quand même une description assez globale de la société que j'ai citée aux alentours de 2030. Et il y avait des choses que j'avais anticipées dans Aqua, je dirais plus anticipées qu'imaginées, parce que Aqua est vraiment ancré dans le réel et qui sont produites déjà. Quoi.
Vous avez déjà anticipé le PDG de Nestlé qui nous raconte que l'eau n'est pas une denrée gratuite.
Voilà. Anticiper la découverte d'une nappe phréatique dans le désert dont une multinationale veut s'approprier, anticiper la mainmise de la Chine sur l'Afrique qui est en train de se produire actuellement. Et puis, anticiper pas mal d'autres choses, le greenwashing généralisé de toutes les multinationales. Que j'ai symbolisé en un seul personnage, une seule grosse multinationale dont c'est le fonds de commerce en fait. Voilà, mais d'un autre côté, c'est pas tellement étonnant parce que ce type de récit qu'on écrit, tous les quatre là, ce type de science-fiction qu'on fait, c'est à peu près l'exact opposé du space opéra, de la fantasy. Quoi. Là, on fait assez peu appel à l'imagination en fait. On base nos récits sur le réel, sur le socle du réel, et on décortique la société telle qu'elle est. Simplement en se décalant, en prenant un point de vue un peu plus élevé, un peu plus éloigné dans le temps ou dans l'espace, ce qui nous donne une vision globale en fait. Et cette vision globale, on essaie de la comprendre et pour mieux l'expliquer en fait. Et je pense que tout ce temps qu'on est, avant de décrire nos bouquins, on a passé quelques mois à potasser des ouvrages, des fois ardus, abscons, et à faire tout un tas de recherches pour déjà comprendre le monde. Quoi.
En fait, vous êtes des escrocs, vous ne devriez pas être aussi imaginaire dans l'imaginaire, vous devriez être appelé comme expert dans les émissions télé.
Sur les télés escrocs, on gagne du podium.
Je ne dis pas ça, mais j'essaie de prendre les choses par l'humour quand même, c'est le principal. Toutes les questions graves qu'on a évoquées, ben, elles sont là. Moi, je suis plutôt du côté de Woody Allen qui dit la question la plus importante, c'est qu'est-ce qu'on va bouffer demain, quoi. Et voilà.
Je ne crois pas en la vie après la mort, mais j'emporte un site de rechange.
Oui, tout à fait, oui. Mais le gros problème, en fait, c'est de quoi on parle en ce moment. On parle du monde ou on parle de la littérature qui exploite le monde ou qui explique le monde, etc. On dit rien, nous, qu'est-ce que c'est, de science-fiction, combien d'exemplaires, 1000, 1500, c'est quoi? C'est rien à côté de tous les problèmes qui se posent. Et je crois que c'est là où, effectivement, est-ce qu'on est les lanceurs d'alerte? On essaye, on va pas bien loin quand même. Je crois que le principal, ce qu'on veut dire, c'est remuez-vous, faites ce qu'il faut dans votre vie de tous les jours. Hein. On est à l'orbite quand on se brosse les dents, on est à la lumière quand on sort d'une pièce, on prend pas la bagnole pour faire 500 mètres. C'est déjà des petites choses, mais qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas suffisantes. Et là, on arrive au constat que le monde dans lequel on vit, c'est pas la politique qui le régule, c'est l'économique. Alors, comment on fait pour agir économique sur le 440, sur ce que vous voulez? Moi, j'en sais rien, je veux dire, on est impuissant là. Et ce qui est grave, ce qui nous interpelle, ce qui nous interloque, c'est qu'effectivement, pourquoi tous ces gens-là qui tiennent le monde dans leur serre n'ont aucune conscience ou font semblant de n'avoir aucune conscience des périls qui nous guettent et qui, par leur
questionnement. C'est-à-dire que j'aurais un moment empêché de penser en rond. Parce que toute notre société consiste à nous conditionner pour que nous pensions sur des rails, d'accord, que nous pensions droit. Ça commence à l'école, ça commence même avant l'école. Il y a un moment où c'est néfaste pour tout le monde que tout le monde pense droit. Je pense que les uns et les autres, on est un peu de ces, je crois, des déstabilisateurs. Hein. Ils font tomber le wagon qui est sur, et qui, à un moment, le font peut-être dérailler, ou en tout cas, qui empêche le wagon d'aller là où tout le monde aimerait bien qu'il aille.
Une espèce de vision un peu décalée des choses, permettre à chacun de faire un pas de côté pour voir la réalité.
Toujours si un seul de mes lecteurs est interloqué, déstabilisé, choqué même dans sa façon de voir habituelle, eh ben, j'aurais pas perdu mon temps.
Ouais, moi j'ai.
La question des tirages, la limite, on s'en fout.
Sauf pour gagner
plein de temps. Si tu tires à 100 000, t'as plus de chances d'en choquer deux ou trois.
Statistiquement.
Je partage tout à fait ton bien sûr, Jean-Michel. Je me dis que si un livre touche un décideur quelconque qui a un peu plus de pouvoir que le citoyen lambda de trier ses déchets et de fermer son robinet, et lui fait tout d'un coup penser un petit peu autrement, et puis peut-être infléchir la politique environnementale de sa boîte ou. Moi, j'ai toujours
fait sur l'idée que, quand même, si on en est dans cette situation-là, si on en est à une ambiance qui ressemble à deux semaines avant 1789, c'est parce qu'il y a à la tête du monde des gens qui se pensent au-dessus de tout ça et sans aucune conscience du reste de l'humanité. Il y a quand même une vraie question sur, on se disait hier, est-ce qu'une personne peut changer le monde ou est-ce qu'il faut que ce soit les systèmes qui changent
Les systèmes, de toute façon, les systèmes. Le système tel qu'il est actuellement court à la ruine. Il va s'écrouler et tout le monde a la conscience, y compris ceux qui le maintiennent en place. Simplement, ils ont une politique de courte vue, je veux dire, c'est une politique de l'autruche, c'est une politique d'après moi le déluge. La plupart des gros chefs d'entreprise ou des grosses multinationales actuelles n'envisagent pas l'avenir à plus de 20 ans ou à. Successeur. Je pense que de toute façon, le changement va s'imposer. Il va s'imposer les deux. Il va s'imposer par le bas et peut-être par la violence, et c'est même certainement par la violence. Il peut s'imposer par le haut, par une prise de conscience des décideurs eux-mêmes. Parce que moi, j'utilise des informations sur Internet, et il y a des prises de conscience, y compris dans des grandes entreprises. Qu'effectivement, il faut voir les choses autrement, il faut commencer à préserver les ressources. C'est un tout petit frémissement, mais il y a de plus en plus d'études qui montrent que un système de partage et plus d'équitabilité, etc., va devenir économiquement rentable, ou bon, préservation de l'environnement, énergie. À devenir économiquement rentable, puisque le système actuel de gaspillage de ressources et d'énergie fossile, etc., va coûter de plus en plus cher en termes de catastrophes, en termes de retombées sociales, de retombées écologiques, etc., va coûter de plus en plus cher, va coûter de plus en plus cher aux entreprises elles-mêmes. Bon, qui, pour l'instant, font tout ce qu'elles peuvent pour répercuter les coûts sur les citoyens lambda sous forme de taxes, impôts, etc. Mais à un moment, ça ne va plus marcher. À un moment, ça ne marchera plus, ça va s'écrouler. Et quand pour l'instant, c'est surtout les pays du tiers-monde qui en pâtissent, effectivement, tous les Occidentaux, enfin, tout l'Occident globalement s'en fout, même s'ils versent une lame de compassion et donnent 10 euros à Greenpeace ou à des ONG, et ça lave la conscience comme ça. Mais à un moment, la pénurie et le manque dont parlait justement hier, le monde des produits les plus vitaux
ce sur quoi sont bâties les multinationales qui s'enrichissent en question, parce que ça enrichit de nos pauvres têtes quand même.
Jean-Pierre, est-ce que vous avez cette vision, je dirais presque optimiste de Jean-Marc?
Je ne sais pas si les Jean-Marc est vraiment optimiste. Le problème, c'est que on ne peut pas considérer la situation du point de vue occidental quand même. Quelles sont les deux grandes puissances, à la fois économiques, à la fois démographiques, à la fois militaires, qui émergent, qui sont en train d'émerger? C'est l'Inde et la Chine. Ils sont loin d'être développés comme nous. Ils veulent se développer comme nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les anéantir à coup de bombe atomique, les laisser faire. Si on les laisse faire, évidemment, on ne peut pas les empêcher parce que chacun a sa bagnole, alors que nous, on a déjà notre bagnole. C'est ça le problème, quoi. Qu'est-ce que, si on sait, si le monde entier avait le niveau de vie et de technologie américain, il faudrait 5 planètes. Hein. Malheureusement, on n'en a qu'une, on ne peut pas s'en évader. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je ne sais pas, c'est ça le problème. Et le gros problème, personne n'en a parlé jusqu'à présent, j'y vais, je fonce dedans, c'est la démographie. Hein. Il y a trop de monde sur Terre aujourd'hui. Il y aura encore plus de monde demain, il y en aura encore plus après-demain. Si on écoute nos politiques, nos démographes, ils s'arrêtent en 2050. Ils disent, en 2050, il y aura 9 milliards d'habitants. Du con. Et en 2075, il y en aura combien? Ils ne le disent pas. Et en 2100, il y en aura combien? Ils ne le disent pas. Il y a cette espèce de barrière. Comme ça, 2050, 9 milliards d'habitants, bon, c'est encore viable à terme. S'il y a 9 milliards d'habitants, ça veut dire qu'il y en a 1 milliard de plus 25 ans après. Il y en aura 2 milliards ou 3 milliards de plus 100 ans après. Ou 50 ans après, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Encore, est-ce qu'on tue une personne sur deux? Je ne sais pas. C'est ça le gros problème, c'est vraiment la démographie. On est trop nombreux pour une terre qui enfle pas à mesure que la population enfle. Alors là, j'en ai bientôt fini. On est entre Français, les auteurs américains ou anglais l'ont dit ça bien avant nous. Moi, j'ai un bouquin phare pour moi, c'est 1250 de John Brunner, qui a été écrit en 1966. Il a eu un tirage 10 fois, 100 fois supérieur à nous. Ça fait quoi le bouquin de Jean Brunner? Il est oublié, maintenant il n'est même pas réédité.
Une vision, une solution à ce problème des problèmes?
Non, pas une solution, mais tant qu'on a un système qui est basé, on nous dit oui, super, la France, la natalité, le taux de natalité de la France, il est super. Mais il est super pourquoi le taux de natalité de la France? Il est super pour soutenir l'économie. Et l'économie, c'est quoi qui nous propulse dans cette manière, dans ce mur? C'est l'économie, c'est d'être par la rentabilité de quelque chose. comme ces rois inertiques. Vous les lancez, ce truc qui tourne sans arrêt de temps en temps, allez, paf, vous foutez une baigne. Donc ça continue de tourner et ça s'entraîne et ça s'entraîne et ça s'entraîne. Voilà. Maintenant, la grosse arnaque, c'est bien, alors je ne sais pas si vous pouvez entre vous, c'est pas bien qui s'arrête là, voilà, pour vous fusiller y avoir étant gagné la place. Ces bagnoles qui sont soi-disant écologiques parce qu'elles sont à moitié moteur électrique ou parce qu'elles ont un stop and start, machin, ça coûte super cher à fabriquer ce bidule. Ça tombe en panne tous les 4 matins. Donc, alors ça fait marcher l'économie parce que les mécanos appliquent votre dedans. Il y a le tromblon à soupe granuleuse qui est foutu. Alors ça, je vais vous dire, c'est vachement cher. Hein. Voilà. Donc, on fait marcher l'économie avec ces trucs-là et ça auto-alimente ce truc. Et on fabriquer des bidules et on continue de fabriquer des pièces détachées. C'est quand la dernière fois que vous êtes allé au garage, le garage est-il a réparé votre bagnole? Il n'a pas réparé, il a changé le bazar. C'est tout. Il y a bien longtemps qu'il n'y a plus un mec qui a démonté le carburateur. Hein. Non, mais il y a une merde dans le gicleur, on change le carburateur. Hein. Bon, il n'y a plus de carburateur, il n'y a plus d'injection.
Vous avez bien travaillé les tweets et là, il y a une merde dans le gicleur, en plus, on
sait pas. Oui, c'est vrai. Une impureté dans le carburant, un ventilateur de reprendre, ça y est, merde.
Qu'il faut faire de bons sentiments avec l'Afrique. Est-ce qu'on a prévu démographiquement, c'est que l'an 2100, il y aura 3,5 milliards d'Africains, de gens qui vivront en Afrique. C'est un pays déshérité, ils sont tous dans la merde. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces gens? On retourne sur la démographie, c'est pas 2 enfants par couple en Afrique, c'est 5 à 6 enfants. On fait quoi? On les stérilise de force? On fait quoi?
Il y a un problème religieux aussi.
Parce que là, il y a pas de la
les murs de la religion, par exemple, les fondamentalismes, qui soient de tout bord, hein, je dis personne.
essentiellement un problème d'éducation, parce que ce n'est pas forcément la religion, il y a qu'à regarder le Moyen-Orient, la démographie a énormément baissé depuis 20 à 30 ans, je crois qu'il y a, sauf dans la bande de Gaza, ils font toujours 5 à 6 enfants pour les faire. Mais la religion, je pense que ce n'est pas le problème essentiel concernant la démographie.
J'en ai fait qu'un déjà. Voilà. Officiellement. Que personne n'élève le doigt dans la salle, s'il vous plaît.
Jean-Michel, est-ce que du coup, l'idée de la désincarnation, du changement de l'humanité vers quelque chose de moins, qui occuperait moins d'espace, qui occuperait moins de ressources, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable à moyen terme?
C'est une vision eschatologique des choses. Le problème, c'est la transition vers cet état-là et nous y sommes. Et c'est ça qui intéresse les uns et les autres dans la vie tout de suite là, aujourd'hui. Je ne veux pas faire l'empêcheur de penser en rond, mais quelle est la solution à l'impact excessif sur les ressources, sur les stocks individuel de chacun d'entre nous, de chacun des habitants de cette terre sur les ressources, sur le stock en question, on agit sur le prix de la consommation, ou bien on agit sur le nombre de personnes qui consomment, d'accord, c'est-à-dire sur le niveau de la population. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire probablement, tel que je connais les choses et tel qu'on peut imaginer, ça veut dire écarter de la consommation très grande partie de l'humanité, la maintenir dans la pauvreté, voire dans la misère, ou bien carrément l'éliminer complètement. Et ça peut être éliminer physiquement des parties entières de la surface de la planète, d'accord, ou ça peut être éliminer des tranches d'âge. C'est soit le malthusianisme, soit la guerre, soit maintenir l'exploitation de ce qu'on a appelé le tiers monde, à la fois celui qui est chez nous et celui qui est sur la planète. Savez-vous, je l'ai déjà dit, certains d'entre vous l'ont déjà entendu, mais il y a une étude de l'INSEE qui est parue il y a 3 ans, qui s'appelait Pauvreté transitoire et pauvreté permanente, et qui démontrait qu'en France, il y a 4 millions de personnes, nous le savons, qui vivent sous le seuil de pauvreté. D'accord. Mais en plus de ces 4 millions de personnes, il y a 10
des solutions pour être naturelles. Parce que, quoi qu'on en dise, et de quelque façon qu'on vive, on fait quand même partie de cycle naturel. On est un produit de l'évolution, un produit de la nature, et ce qu'on constate systématiquement dans tous les phénomènes naturels, c'est qu'il y a une prolifération d'une espèce, que ce soit les lapins, les lémings, les orties, la luzerne, n'importe quoi, les insectes, les mauvaises herbes. Il y a un moment où une épidémie décide tout ça, ou bien un prédateur va tout bouffer, ou bien s'il se crée des équilibres qui font que l'espèce en question va s'autodétruire. Et je pense que l'espèce humaine est au sein de l'autodestruction. L'espèce humaine est au sein de l'autodestruction. Elle va de toute façon s'autodétruire. Ça ne veut pas dire que tout le monde va mourir. Elle va revenir à un seuil viable. Et donc, alors, est-ce que ça va se passer d'une façon violente et anarchique? Est-ce que ça va être raisonné en termes de contrôle des naissances, de non-accès à la consommation? Est-ce que ça va être passé par des dictatures qui vont imposer des restrictions, etc.? Ou est-ce que effectivement il va y avoir des épidémies ou la pollution qui va tuer le plus grand nombre de personnes? Mais de toute façon, ça va se produire. Le problème démographique va se régler d'une façon ou d'une autre.
C'est toujours le même système. On dit qu'il n'y a qu'à laisser faire.